Merci de vous être déplacé à nouveau pour cette école publique. Cette année, je fais quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque avec l'âge d'or, dont certains sont présents, je lis en parallèle à la fois l'évangile de Marc et l'évangile de Jean. À l'âge d'or, on prend l'évangile de Marc comme lecture continue, et puis aujourd'hui, j'ai pu un peu retravailler, eu la joie de retravailler avec l'évangile de Jean pour vous ce matin. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir comment chacun, et ça c'est vraiment un sujet inépuisable de méditation, de voir comment chacun des évangélistes a une façon propre de représenter le Christ. Et ce qui est très étonnant, c'est que Saint Jean a un style de narration tout à fait particulier, puisqu'il ne rentre pas dans une succession de détails. Lorsque vous lisez l'évangile de Marc, vous avez une succession de faits. Jésus fait ci, fait ça, il fait un miracle, il va à tel endroit, puis ensuite il quitte tel endroit, il va en Galilée, puis ensuite il descend, ensuite il remonte, ensuite il fait ça, puis là il y a un enseignement. Et on a l'impression presque d'une petite note d'événement qui est consignée, qui nous permet de suivre même géographiquement le Christ. Toutes ces indications, je veux dire chronologiques et géographiques, dans l'évangile de Jean sont beaucoup plus petites, au profit de moments clés que Saint Jean a retenus et qu'il a développés. Je pense que c'est essentiellement lié au fait que Saint Jean est le dernier à avoir écrit. Vous savez que la première communauté chrétienne pensait, très certainement, et c'est étonnant de voir ça chez Saint Paul, parce que chez Saint Paul, le point de départ dans ses premières lettres, il est persuadé que le Christ va revenir dans quelques années. Et du coup, il n'y a pas besoin d'écrire un évangile si le Christ va revenir. La nécessité de la mise par écrit des évangiles, elle est liée au fait que la première communauté chrétienne a pris conscience que le Christ ne reviendrait pas. Et que du coup, en tout cas pas tout de suite, enfin qu'il ne reviendrait pas tout de suite. Parce que je suis en train d'écrire un enseignement pour les fraternités sur « Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts ». C'est un thème très intéressant. Le retour du Christ, ou la venue du Christ en gloire. Et donc, en tout cas, il revient pas tout de suite. Et donc, face à ça, d'ailleurs, c'est assez beau. Marc, le premier, a eu cette intuition qu'il fallait noter par écrit, parce qu'un jour, des chrétiens n'auraient plus la possibilité d'avoir un contact direct avec le Christ, ni par la mémoire de ceux qui l'ont rencontré, ni par une expérience directe. D'ailleurs, c'est aussi exactement ce que fait Saint Jean dans sa première épître, qui était, lisez le prologue de la première épître de Saint Jean. Ce que nous avons vu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Donc c'est vraiment cette conscience qu'ils sont dépositaires d'une expérience unique qui doit se transmettre. Et pour se transmettre, il va falloir écrire. Et Saint Jean est le dernier à avoir écrit. Et donc, d'ailleurs, c'est assez beau. Il y a des sortes de en grec, on parle des apax, il y a une sorte de trou noir, vous voyez, dans l'évangile de Jean. Par exemple, le plus gros trou noir de l'évangile de Jean, c'est la scène. Il n'y a pas de récit de la scène dans l'évangile de Jean, on pourrait se dire. Jean, c'est quand même l'évangile de la manne, chapitre 6, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou s'il sera prévu dans ce parcours, mais chapitre 6 de l'évangile de Jean est quand même essentiellement le pain de vie, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Il n'y a pas plus eucharistique que ce passage, et il ne nous raconte pas la scène, c'est quand même étonnant. Et donc Saint Jean, c'est un évangile qui doit se comprendre comme étant le dernier à avoir été écrit, et de ce fait comme un complément de ce qui est écrit par ailleurs. Et c'est pour ça qu'on devrait toujours lire, notre père fondateur nous invitait souvent à lire en parallèle Luc et Jean. Et pourquoi Luc et Jean? À cause de la Vierge Marie. En fait, c'est parce que Luc, c'est l'évangile de la Vierge Marie, et Jean, c'est l'évangile de la Vierge Marie, et que Luc nous dit qu'il s'est renseigné auprès de ceux de façon très, très, très scrupuleuse, je vais dire. Au début de son évangile, il s'est renseigné sur les faits que lui, il n'a pas vus, et on ne peut pas douter une seule seconde, lorsqu'on voit la place de Marie dans l'évangile de Luc, qu'il a été se nourrir à la source, c'est-à-dire à la Sainte Vierge. Et il y avait qui auprès de la Sainte Vierge? Donc l'évangile de Jean, l'évangile de Luc, on ne peut pas les séparer. Donc et c'est important parce que du coup, on comprend pourquoi il y a toutes ces omissions. Alors donc il y a un rapport au temps qui est particulier puisque Saint Jean va choisir des moments qu'il va développer, des faits qu'il va développer, à lesquels il va donner, j'allais dire, toute leur profondeur spirituelle. Et c'est très particulièrement un évangile où Jésus est en dialogue avec l'humanité. On le voit avec Nicodème, on le voit avec la Samaritaine, ce qu'on voit aujourd'hui. C'est un Jésus qui dialogue. Alors que quand vous regardez l'évangile de Matthieu, c'est très, comme diraient les jeunes cadres professionnels dynamiques de ma paroisse, c'est du top-down. C'est-à-dire que il y a grands discours qui font trois chapitres et puis tout le monde gratte derrière, quoi. Mais il n'y a pas cette espèce d'élément dialogal qui est particulier à l'évangile de Jean. Une autre particularité de l'évangile de Jean, c'est important de le sentir, c'est qu'il y a un rapport au temps très particulier. Parce que, alors là, j'allais dire, c'est quasiment cinématographique. Vous savez, dans un film, lorsqu'on veut intensifier une scène, on fait un ralenti. Vous voyez, et donc, vous voyez, vous regardez les chariots de feu, enfin, ils ne courent pas normalement, on fait tac, tac. Et on a le temps de le voir courir. Heureusement qu'il n'y a pas tout le 100 mètres qui est, ou tout le marathon qui est comme ça, ça prendrait 10 heures. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'évangile de Jean, c'est qu'il y a quelques scènes qui sont particulièrement développées, et plus on avance dans l'évangile de Jean, et plus le temps s'allonge. Puisque la moitié de l'évangile va être consacrée uniquement à la dernière semaine de Jésus. La moitié de l'évangile. Donc vous voyez, plus vous vous enfoncez dans cet évangile, plus le temps se ralentit, parce qu'on s'approche du mystère, on s'approche du mystère, on s'approche du mystère. Le mystère, c'est quoi ? C'est le don de la vie de Jésus, le moment de la glorification. Et là aussi, c'est une particularité de l'évangile de Jean, c'est que là, pour le coup, c'est une différence avec l'évangile de Luc. Pour Luc, la glorification, c'est pas une opposition, mais il faut le voir en complémentarité. Pour Saint Luc, la glorification, c'est l'ascension. C'est le moment où Jésus est glorifié. Jésus est pris dans la gloire. Pour Saint Jean, le moment de la gloire de Jésus, c'est sa mort sur la croix. C'est le moment de la véritable gloire. C'est là qu'il est victorieux, c'est là qu'est la lumière. Et donc lui, je veux dire que Saint Jean déplace un tout petit peu le curseur pour dire au fond, la gloire, c'est le mystère de la croix. Et donc, il ralentit le temps pour nous faire arriver progressivement vers le mystère de la croix. Et ce qui est très étonnant dans l'évangile de Jean, c'est que c'est un évangile en réalité qui est assez musical. Vous savez, dans la musique, on nous parle souvent de thèmes et variations. Par exemple, pour Bach, ou les variations Goldberg, je crois, il y a 36 variations, 36 variations autour d'un même thème. Et donc le même thème va être joué, puis il va être repris d'une façon, puis d'une autre façon, puis d'une autre façon, puis d'une façon. C'est techniquement complètement, c'est assez ahurissant. L'évangile de Jean, il est comme ça. Il y a quelques thèmes qui sont pris. Je vous dis ça en fait pour vous introduire à la lecture de ce que je vais vous dire un petit peu pour vous aider à lire la Samaritaine. Parce que la Samaritaine va développer un de ces thèmes. Vous pouvez prendre l'évangile de Jean et lire le thème de la lumière. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, vous comprenez la fonction du prologue. Le prologue va vous synthétiser en quelques lignes, 18 lignes, 18 versets, tous les thèmes. Donc, il les met. Et ensuite, ces thèmes, vous allez les retrouver tous les 3 ou 4 chapitres. Enfin, ça dépend pour... Donc vous pouvez prendre le thème de la lumière et vous lisez tout l'évangile de Jean sous le thème de la lumière et vous notez chaque fois que Jean parle de la lumière et vous allez commencer à relier des passages les uns avec les autres que vous n'auriez pas forcément vu dans l'aveugle de naissance avec Lazare. Vous ne verriez pas forcément le lien entre l'aveugle de naissance et Lazare, pourtant il y a un lien et ce lien c'est la thématique de la lumière. Vous pouvez prendre la thématique de la vie, le pain de vie, etc. Vous pouvez prendre la thématique de l'eau, et la thématique de l'eau aujourd'hui c'est celle qu'on va voir, la soif. L'eau vive. Oui, vous pouvez progressivement, plus vous lirez l'évangile de Jean, plus vous allez repérer, je vais dire, son vocabulaire propre, ses thèmes, et ça vous donnera des clés pour relier des passages les uns avec les autres et du coup voir comment il fait grandir son évangile. Alors, là aussi, donc, le but, c'est pas le but de ce matin, c'est que je vous donne quelques petites clés qui vont vous aider à lire, et vous vous invite aussi à le lire et le relire pendant cette semaine, cet évangile. Donc je voudrais déjà vous donner quelques indications de structure qui vous permettront, je pense, en tout cas j'espère, de voir la dynamique du texte. Parce qu'en réalité, l'évangile de Jean est un évangile qui est extrêmement construit, comme une partition de musique. Et donc, vous pouvez le noter, après je vous laisserai le soin de vérifier que je ne me trompe pas, et si vous n'êtes pas d'accord, vous m'enverrez un mail, d'accord ? Non, oui, alors moi je ne ferai pas la séparation, verset 14, verset 13b. Donc, pour moi, il y a trois grandes parties. La première partie, elle va du verset 1 au verset 15 inclus. Et cette première partie, je l'appelle le retournement de situation. Pourquoi ? Et certains d'entre vous qui avaient déjà lu la Samaritaine pour préparer ça, vous l'avez vu, c'est que cet évangile commence par une question de Jésus et finit par une question de la femme, et que cette question c'est la même. Jésus dit « Donne-moi à boire », et ensuite, à la fin, au verset 15, il lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau ». Donc, et en fait, tout l'intérêt de cet évangile, c'est de voir comment Jésus va faire basculer cette femme d'un non-désir à un désir. Au départ, c'est Jésus qui exprime un désir, et à la fin, c'est la femme qui exprime son désir. Ensuite, il y a un deuxième verset, un deuxième paragraphe, une deuxième partie qui va du verset 16 au verset 25. Et cette partie, je vais l'appeler la confession de foi de la Samaritaine. Ça commence par au verset 19, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Et au verset 25, Jésus se révèle, « Je le suis, moi qui te parle. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » C'est qu'à ce moment-là, on ne parle plus de l'eau, mais on parle de l'identité de Jésus, qui est en fait la vraie question. Et vous voyez que ce thème, qui tourne autour de l'identité de Jésus, est un thème où va être développée cette question de l'adoration en esprit et en vérité. Jésus veut nous donner une eau vive. Donc ça, c'est le mystère de la grâce. Mais Jésus, c'est pas simplement un distributeur de grâce ou de sacrement, c'est plus que ça. Et donc, le véritable but du chrétien, c'est pas simplement de recevoir les grâces que Jésus veut nous donner, mais c'est de découvrir qui est Dieu, qui est le Christ, qui est le Père. Et vous voyez que ce passage, on dit que Jésus est le Messie, on parle de l'adoration. En fait, il est trinitaire. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit, dans ce même passage. L'évangile de Marc est beaucoup moins trinitaire que l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, c'est l'évangile le plus trinitaire. Et de Marc est très christologique. Il est tout orienté, tout centré sur la figure du Christ. Alors, bien sûr que l'Esprit et le Père sont évoqués, mais c'est vraiment un évangile christologique, alors que l'évangile de Jean est très trinitaire. Et la dernière partie, c'est le verset 27 au verset 41 que je vais appeler l'élan missionnaire. Cet élan missionnaire, il est double, il est tout autant avec les disciples qui reviennent du village et qui ne comprennent pas trop. Au départ, Jésus avait faim, maintenant Jésus a plus faim, ils ne comprennent pas. Et Jésus leur parle d'une nourriture qu'ils ne connaissent pas, etc. Donc, et puis, il se situe aussi vis-à-vis des villageois. Il y a les disciples qui arrivent vers Jésus, et ensuite les villageois qui arrivent vers Jésus. Et ces villageois, ils vont faire aussi leur propre chemin de foi. C'est entre le verset 39 et le verset 41-42. Le père Philippe nous dit toujours avec un peu d'humour... Lorsque la Samaritaine dit rentre au village et dit il m'a dit tout ce que j'ai fait, C'était une notoriété publique, hein, donc ça aurait dû étonner personne. Mais tout le monde savait qu'elle avait eu 6 maris et, ou 5 maris, que son mari, c'était pas son mari, enfin bref. Donc rien de très très surprenant, quoi. Donc il m'a dit tout ce que j'ai fait, il fait ouais, bon, pas difficile, quoi. Mais ce qui est magnifique, c'est la parole des gens du village à la fin, qui vont conduire à leur propre confession de foi. Tu vois, ce n'est plus sur tes dires que nous croyons, nous l'avons vu nous-mêmes. Et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. C'est pour ça que je parle d'élan missionnaire. C'est-à-dire que cette femme retourne au village, et elle retourne au village, vous l'avez remarqué, sans sa cruche. Ce qui symboliquement n'est pas du tout anecdotique. C'est-à-dire qu'en fait, puisqu'elle a plus besoin de sa cruche, c'est-à-dire qu'elle a trouvé l'eau. Et parce qu'elle a trouvé l'eau, elle va pouvoir conduire vers l'eau. Et elle va au village, et elle permet aux autres de revenir vers le Christ. Vous voyez, même, j'allais dire, sur un plan spatial, le Christ est au centre avec ce puits. Il est assis, et ensuite, les disciples vont partir, vont revenir, la femme va venir, elle va repartir, les gens du village vont arriver. Il y a vraiment quelque chose de très central. Ça, on se représente bien mentalement les choses. Le Christ est le pivot de ce texte auprès de qui tout tourne, s'arc-boute et se structure. Voilà. Donc, pour comprendre la dynamique de ce texte, il faut bien voir ces trois moments qu'on pourrait quasiment. Juste me demander à quelqu'un de fermer la porte qui est ouverte par un enfant qui l'a mal refermée. Merci beaucoup. Je trouve en réalité qu'à travers la structure textuelle, on retrouve une structure spirituelle. La structure textuelle, c'est Jésus suscite un désir, la confession de foi, l'élan missionnaire. Je pense que lorsqu'on regarde notre vie, le Christ vient susciter en nous un désir pour que nous puissions confesser son nom et ensuite nous envoie. Vous voyez, on a une sorte de synthèse de tout un mouvement spirituel. Alors maintenant, je vais vous donner quelques petites, des petits détails. Moi, je pourrais passer 5 heures à vous parler de ce texte, mais voilà, des petites choses, et là encore je sais qu'il y a des gens qui ont déjà un passif biblique plus ou moins important, donc pour ceux pour qui je vais avancer des portes ouvertes, dites-vous que le principe de la prédication, c'est de nouveau se répéter que se contredire, d'accord? Donc c'était ce que disait mon prof de prédication, donc je n'ai pas peur de me répéter. On enfonce le clou comme ça aussi. La première chose, les pères de l'Église ont insisté, notamment saint Augustin, sur l'expression « il fallait passer par la Samarie ». Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, bien qu'il avait dire Jésus lui-même ne baptisait pas mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Alors, cette nécessité, elle est tout autant, là encore, géographique que spirituelle. L'évangile de Jean, c'est vraiment un évangile constamment se lie à double sens. Parce que, alors, sur un plan géographique, bien sûr, que pour aller de la Galilée en Judée, on est obligé de passer par la Samarie, mais vous savez qu'à l'époque, on ne passait pas par la Samarie. On ne passait pas par la Samarie parce que ça ne se faisait pas de passer par la Samarie. Donc du coup, le chemin normal, c'était de passer de la Galilée à la Transjordanie, de longer le Jourdain pour repasser au niveau de Jéricho et remonter à Jérusalem ou en Judée. Donc un juif de l'époque vous dirait, ben non, il ne fallait pas passer par la Samarie, puisque justement, il ne fallait pas passer par la Samarie. Donc il y a une première transgression. Dans cet évangile, c'est que Jésus veut réunir deux nations, les Samaritains, qui étaient des Juifs, mais considérés. Si vous voulez comprendre la différence entre les Samaritains et les Juifs à à l'époque de Jésus, vous direz catholique protestant. Oui, c'est les protestants de l'époque. Ceux qui sont séparés à un moment et qui sont considérés comme des mauvais croyants parce que... etc. Après, il y a plein de subtilités, hein, mais ils avaient le Pentateuque en commun entre les Samaritains et les Judéens, mais les vrais, ceux qui sont considérés comme les vrais Juifs, c'était les Judéens. Avec des différences sur le culte, c'est pour ça que Jésus a parlé d'adoration, comme on a différence sur le culte avec les protestants, puisque nous, on croit en la présence réelle et qu'eux n'y croient pas. D'une certaine façon, il y a une première transgression ici. La deuxième transgression, c'est que Jésus va rencontrer cette femme qui était une phase de mauvaise vie, enfin, considérée comme telle, et que généralement un homme ne rencontre pas une femme seule. Donc vous voyez, donc, on sent vraiment, je veux dire, comme une volonté du Christ de rencontrer cette femme. Et c'est pour ça qu'il lui fallait traverser la Samarie pour rencontrer sa femme. Il fallait transgresser ses frontières. Donc c'est, sous bien des aspects, on pourrait dire que la rencontre entre Jésus et les Samaritaines, c'est une rencontre qui n'aurait pas dû se faire. Elle n'aurait pas dû se faire, tout d'abord en raison des différences socio-religieuses, comme je viens de vous le dire. Ensuite, elle ne devait pas se faire parce que cette femme n'était pas vraiment disposée à la rencontre, puisque... elle vient à midi pour pouvoir venir tranquillement être seule chercher de l'eau. Et puis, oui, comme elle marque de la distance, hein, tu me parles à moi, une femme samaritaine. Elle est une femme et elle est samaritaine. Deux bonnes raisons qu'on ne lui parle pas. Et puis, elle est ironique, cette femme. Vous voyez, elle n'est pas du tout, son cœur n'est pas prêt. Hein. On est loin de Nicodème, où Nicodème, même s'il n'assume pas complètement, il vient de lui, mais... commence tout de suite par dire son intérêt, voilà, tu es un rabbi, tu es un maître. Non, cette femme, elle a envie de rencontrer personne, et elle a plein de verrous intérieurs. Elle a plein d'oppositions. Et vous voyez comment Jésus va faire un peu le passe-muraille, quoi. Il va s'infiltrer dans son âme avec beaucoup de sens psychologique. Oui, d'où l'as-tu donc, le vive ? Tu n'as même pas un sceau. Vous voyez, cette femme n'est pas disposée. Et puis ensuite, cette rencontre n'aurait pas dû se faire parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils ne parlent pas le même langage. Et là, on a un gros... c'est important que vous puissiez prendre le temps de lire en parallèle Nicodème, le dialogue avec Nicodème et le dialogue avec la Samaritaine, parce que dans ces deux dialogues, vous voyez ces sortes de discussions à deux niveaux qu'il y a dans l'évangile de Jean. Jésus ne parle pas la même chose que cette femme, et en fait on peut, en toute la première partie du texte, on se dit, est-ce qu'ils vont se rencontrer? C'est un peu ça qui fait l'intérêt du truc. On se dit comprendra. Et ce qui est bouleversant, c'est de voir que ce dialogue est vraiment à l'initiative de Jésus. Et que Jésus va commencer par partir de son humanité pour conduire à sa divinité. Son humanité, puisque voilà, donne-moi, il a soif, il a concrètement vraiment soif. Et ce passage, il faut le lire en parallèle avec le j'ai soif de la croix. Au chapitre 19, quand Jésus dit j'ai soif, donne-moi à boire, j'ai soif. On a la même ambiguïté, en fait. Parce que dans ces deux textes, quand Jésus dit « j'ai soif » sur la croix, il ne manque pas de l'eau. Hein. Et celui qui a lu l'évangile de Jean, celui qui a lu le passage avec la Samaritaine, sait qu'en fait, la boisson vinaigrée qui va être donnée à Jésus ne répond pas à son besoin. Ça ne répond pas à sa question. Oui, d'une certaine façon, nous, comme lecteurs, on est invités à se poser la question, c'est une des questions que je vous donnais tout à l'heure, hein, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, enfin c'est important qu'on parte avec ça, étancher la soif du Christ. Le Seigneur nous dit « j'ai soif ». Pourquoi il nous dit « j'ai soif » ? S'il dit « j'ai soif » à cette femme, c'est que d'une certaine façon, et cette femme, elle a en réalité bien compris, elle a bien compris qu'elle a quelque chose que le Christ n'a pas. Mais ce qu'elle a et que le Christ n'a pas, c'est pas la cruche, hein. puisque Jésus n'a pas soif d'eau. Son corps a soif d'eau, mais en fait, son cœur a soif d'autre chose. Mais en même temps, c'est une façon de nous dire, et de dire à cette femme, tu as quelque chose que je ne peux pas te prendre si tu ne me le donnes pas. Et ça, c'est, on voit toute la, j'allais dire, le profond respect de la liberté de l'homme que Dieu a vis-à-vis de nous. Nous avons quelque chose que Jésus ne peut pas nous prendre. Nous avons notre puits, nous avons notre cruche. Et si nous ne lui donnons pas de l'eau, nous ne pourrons pas assouvir sa soif. Oui. On a la possibilité de faire mourir de soif notre Sauveur. Ça, c'est le mystère de la croix. Et ce qui est très beau, c'est que au verset 11, en fait, je suis en train de complètement déraper au niveau du temps, hein, c'est ça ? Grosso modo. Je me prends encore 5 minutes. Voilà, c'est ça. On peut rester jusqu'à midi, hein, si vous voulez. ce qui est beau, c'est que c'est cette femme qui va progressivement orienter la question sous l'identité de Jésus en lui disant d'où l'as-tu donc l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ? Là, on quitte un peu cette question de la soif pour commencer à s'orienter vers cette deuxième partie qui sera la question de l'identité de Jésus. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Jésus ne répond pas directement à sa question sur l'origine de l'eau, d'où l'as-tu donc l'eau vive, ni sur son rapport au patriarche Jacob, puisqu'il va simplement continuer à développer quelles sont les qualités de cette eau que Jésus lui promet. Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, et là il parle de l'eau physique, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. Et souvent, j'utilise, pour bien comprendre ce que Jésus fait ici, la différence sur un plan philosophique entre le besoin et le désir. Le besoin, c'est quelque chose qui est assouvi à partir du moment où j'obtiens ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une télévision. Lorsque je l'ai achetée, j'en ai plus besoin puisque je l'ai, la télévision. D'accord ? Donc le besoin, c'est quelque chose qui peut être rassasié. Alors que le désir n'est jamais rassasié. Plus on aime, plus on a envie d'aimer. Et donc, plus on s'approche de l'objet de notre désir, plus le désir grandit. Et c'est pour ça que Jésus parle de cette eau, à la fois qui va combler nos désirs, mais en même temps, il enchaîne tout de suite en disant que ce sera une eau qui sera jaillissant en vie éternelle. C'est-à-dire que c'est une eau qui nous permet de devenir nous-mêmes une source. Alors, je voudrais vous conseiller d'acheter un bouquin, Le cœur du monde. Ceux qui aiment la théologie et la poésie, c'est magnifique. Enfin, c'est une poésie en prose, hein, mais c'est extrêmement poétique. C'est Hans Urs von Balthasar, grand théologien du Concile, suisse-allemand, et ça s'appelle Le cœur du monde. C'est une magnifique méditation sur le Christ. Et il y a un chapitre qui s'appelle Dieu est dangereux, dans lequel justement il montre comment Jésus vient intensifier notre désir. Et il dit de façon un peu subvertive, ne bois pas ce breuvage. Si tu bois ce breuvage, en parlant justement de cette eau que Jésus nous donnait, tu auras encore soif, tu auras de plus en plus soif, tu auras soif, mais jusqu'à pendant toute ta vie, tu n'auras de cesse d'avoir soif. Et je trouve ça, c'est très vrai. C'est que Jésus, en suscitant le désir, fait grandir en nous la soif. Et c'est beau parce que la Samaritaine va passer justement de l'étonnement au désir. Seigneur, donne-moi cette eau. L'étonnement, c'était au début. D'où l'as-tu donc le vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob ? Et ensuite, c'est le désir. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. Ce qui est beau encore, ce qui est important aussi de voir, c'est que pour que nous puissions... Jésus ne commence jamais par la morale, jamais par la morale. Il commence toujours par susciter un désir. Mais ensuite, il va demander à ce qu'on soit mis en vérité. Et donc à ce moment-là, il pose cette question qui apparemment n'a rien à voir, va, appelle ton mari. Vous pouvez dire, c'est pas très délicat. Alors là encore, hein, il y a une dimension symbolique. Elle a eu 5 maris, la personne avec qui elle vit n'est pas son mari, ça fait 6, et Jésus c'est le 7e. Voilà. Jésus c'est le vrai mari. C'est-à-dire que Jésus c'est celui qui va combler ce que tous ses autres maris n'ont pas pu combler. Et nous aussi, on est dans c'est-à-dire une recherche, infinie d'amour. Et ce désir d'amour, en fait, on le cherche auprès de personnes qui ne peuvent pas nous le donner. Donc en fait, on est déçu. Donc on se marie en disant bah, moi, ma femme va me combler. En fait, on sait que non. Hein. Enfin, moi, en préparation au mariage, je leur dis, hein, écoutez, pensez pas qu'il y ait quelqu'un. Enfin, vous aurez encore soif. Hein. Vous aurez encore soif. C'est pas grave. Mais vous aurez encore soif. Et au fond, le Christ vient comme celui qui vient justement à apporter comme la perfection, c'est le chiffre 7, et c'est les véritables épousailles. Et ça renvoie à un autre passage, oui, c'est infini dans l'évangile de Jean, tu fais du passage en passage, c'est que ce passage-là de l'époux renvoie au chapitre 3 où Saint Jean-Baptiste dit à ses disciples, oui, les disciples vont voir Jean-Baptiste et lui disent, ouais, j'arrête. Les disciples vont voir Jean-Baptiste et lui disent, les disciples de Jean-Baptiste vont voir Jean-Baptiste et lui disent, ouais, tu vois, le gars là, t'as montré l'autre jour, maintenant, c'est tout le monde va à lui, tu vois, c'est quand même un peu dégueu. Enfin, ils disent pas ça, hein, mais c'est la traduction en bon courant, en français courant. Et du coup, les disciples de Jean-Baptiste répondent, celui qui a l'épouse est l'époux. C'est-à-dire, le fait que tout le peuple se dirige vers le Christ montre bien qu'il est l'époux. Donc, là encore, le thème des épousailles dans l'évangile de Jean et dans l'Apocalypse, ça pourrait être, oui, c'est une partie de ces thèmes. Il y a cette idée que pour pouvoir, Jésus commence par susciter un désir, et quand le désir est accroché, moi je le vois avec les catéchumènes, j'accueille les catéchumènes, je pense à une catéchumène là qui ça fait 3 mois qu'elle commence à chevaler avec le Christ, elle va tout autant à l'église qu'à la carte mancienne. Et son accompagnatrice lui dit, il faudrait lui dire quand même qu'elle n'est pas dans la vérité et tout. Je dis non, pour l'instant, présente-lui Jésus. Et quand son amour pour Jésus va grandir, elle va pouvoir lâcher. Et c'est ce que Jésus fait. Une fois qu'il a senti que l'hameçon était bien accroché et que le désir était là, à ce moment-là, il peut parler des trucs un peu douloureux. Voilà, appelle ton mari, là. Et elle ne ment pas, hein, elle se met en vérité. Elle accepte de se mettre en vérité avec le Christ. Donc pour pouvoir recevoir l'eau vive, il faut, une fois que le désir, la mécanique du désir est mise en place, il faut accepter que Jésus fasse la vérité sur notre vie. Sinon, on ne pourra pas adorer en esprit et en vérité. Parce qu'on ne sera pas en vérité avec le Christ. Alors, je vois juste s'il y a un truc important que je vous dise. Dernier conseil que je vous donnerai, notamment pour comprendre la dernière partie sur la nourriture. Hein, je vous donne des petits. Le but, c'est qu'à partir de ça, vous puissiez aller vous-même relier d'autres passages de l'évangile de Jean. Mais la dernière partie, le dialogue entre Jésus et les disciples qui arrivent en disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Et Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. » Ce texte-là nous rappelle Jean 6, hein, le pain de vie. Puisque dans le pain de vie, on nous parle aussi d'un pain. Là, Jésus avec la Samaritaine nous parle d'une eau qui fera qu'on n'aura plus jamais soif. Et dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, Jésus nous parle d'un pain qui nous rassasiera. De la même façon. Et donc, du coup, vous pouvez aussi, là, en lisant en parallèle la Samaritaine et le chapitre 6 de l'évangile de Jean, vous allez voir s'il apparaît d'autres liens.